Présidence.
Bienvenue à tous pour ce cinquième numéro de Présidence. Et c'est une émission spéciale que je vous propose cette semaine. Rideau rouge, siège rouge, scène de théâtre. Non, je ne vous emmène pas à l'opéra, mais dans la belle salle de la mairie du 6e arrondissement de Lyon pour une conférence du Front de Gauche sur le thème « Construire des alternatives au marché financier ». L'ambiance est chaleureuse, bon enfant, on ne donne pas du camarade mais on se tutoie, les gens se connaissent, s'apostrophent, discutent, une sorte de petite famille, réunie par un même militantisme. Petit à petit, il faut dire que la conférence a bien 45 minutes de retard, ça laisse le temps, petit à petit donc, la salle pourtant assez grande se remplit presque tout en entier. À l'entrée, on distribue des tracts, on vend le programme du Front de Gauche, 2 € en librio, déjà un succès de librairie. On me donne même une carte postale reproduisant une affiche de 1924 où est écrit en lettres rouges « Almanach des amis de Guignol ». Ne criez pas la corruption de journalistes pour autant. Dans la salle, tous les âges, toutes les catégories socio-professionnelles, mais une seule et même inquiétude face à l'avenir, dans ce contexte de crise où la situation semble échapper aux dirigeants et résider dans le seul jeu dérégulé des marchés financiers, comme l'illustre ironiquement une affiche, la bourse ou la vie. J'ai laissé mon micro se promener dans la salle avant le début de la conférence. Voici ce que dit Florian, jeune militant au Parti communiste français depuis un mois, à propos du Front de Gauche et de son programme, dont le titre est « L'humain d'abord ».
Le mot « l'humain d'abord », ça incarne bien cette opposition à le système comme il était construit. Quoi. Le Front de Gauche, oui, c'est la seule formation qui a une cohérence aujourd'hui politiquement par rapport au Parti Socialiste qui ne remet pas clairement en cause le système. C'est évident que je trouve la seule réponse dans cette formation actuellement.
Mon micro continue de se promener et c'est un autre jeune militant qui répond.
Bonsoir Louis, tu es militant du Front de Gauche. Depuis combien de temps ?
Ça fait maintenant 2 ans et demi que je milite au Parti de Gauche et au Front de Gauche.
Et qu'est-ce qui t'a décidé à militer ?
Ce qui m'a décidé à militer avant tout, c'est les injustices sociales, le creusement des écarts de richesse dans le pays avec la montée du précariat dans le pays. En 2008 également la crise du Parti Socialiste qui n'arrive plus à répondre aux classes populaires et le formidable espoir qu'a suscité la création du Parti de Gauche et du Front de Gauche avec la sortie de Jean-Claude Mélenchon du Parti Socialiste en 2008.
Le Front de Gauche a été donc fondé, on le rappelle, pour redonner une nouvelle image de la gauche, une gauche qui s'occupe des mouvements populaires avec les mouvements populaires et qui veut remettre l'humain d'abord. Tu trouves que cette idée de remettre l'humain d'abord, elle est absente de certains autres partis de gauche ?
À gauche, pour passer les cités, le Parti Socialiste, par exemple, actuellement, il est sur une ligne social-libérale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'actuellement, on est face à une crise du capitalisme, une crise majeure en Europe. On le voit très bien en France avec la montée du précariat. On le voit très bien en Grèce avec l'Union européenne, la BCE et le FMI qui n'arrivent pas à répondre à cela. Et le Parti Socialiste, à l'heure actuelle, on le voit très bien. En Grèce, qui était gouvernement, M. Papandréou, c'était un socialiste. Si le Parti Socialiste arrive bientôt au pouvoir, ils appliqueront les mêmes recettes que Papandréou. M. Hollande sera le nouveau Papandréou. Et nous, ce qu'on propose, justement, c'est qu'au lieu de donner l'argent à la finance, aux banques, de rembourser la dette, nous, ce qu'on propose, c'est de remettre l'humain d'abord, c'est-à-dire de redonner le pouvoir au peuple, car je pense que c'est vraiment le peuple qui sait mieux que les autres membres de la société ce qui est bon pour le peuple lui-même.
D'accord, merci.
Autre militant présent dans la salle, Pierre Crépel, normalien, docteur en mathématiques à l'université de Lyon 1, membre titulaire de l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Lyon. Voilà ce qu'il dit à notre micro.
Bonsoir Pierre Crépel. Alors que les banques sont en crise, que les grandes puissances européennes se réunissent et trouvent des milliards sur des milliards, mais qu'ils n'arrivent pas à endiguer la crise, le programme du Front de Gauche s'intitule « L'humain d'abord ». Vous trouvez que, par ces temps, la politique néglige l'humain ?
Oh bah, elle néglige pas l'humain, elle est complètement inhumaine. Hein ?
Vous parliez tout à l'heure des milliards qu'on a trouvés pour les banques. Je me souviens que le 4 ou 5 janvier 2009, on demandait un peu de crédit pour l'éducation et pour la santé. On nous a dit que c'est absolument impossible de trouver quelques millions. Et le 6 ou 7 janvier, on nous a dit subitement qu'on pouvait trouver 360 milliards pour les banques. On est arrivé dans une situation où c'est quasiment la négation de l'être humain, la politique qui nous mène. Hein. C'est-à-dire que l'être humain est devenu une espèce d'appendice de la finance, des profits, du gouvernement des hommes d'affaires, etc. Une variable d'ajustement.
Le Front de Gauche, on le sait, il a été fondé au départ pour donner un nouveau visage de la gauche. Avec les primaires du Parti Socialiste, est-ce que vous avez eu l'impression de voir aussi un autre visage du Parti Socialiste émerger, où on est toujours dans les mêmes conditions et le Front de Gauche a toujours légitimité d'exister puisqu'il représente vraiment la gauche par rapport au Parti Socialiste?
Les primaires du Parti Socialiste, par certains côtés, c'est pire encore parce que c'est encore plus de personnalisation et les programmes, le contenu, etc. On n'a pas bien vu les différences entre les uns et les autres, sauf un peut-être. Hein. Bon, cela dit...
Vous pensez à Arnaud Montebourg peut-être?
Oui, du moins en apparence, hein, parce qu'ensuite, pour voir la réalité, ça, il faudrait creuser. Hein. Bon, pas qu'il faut faire attention aux mots, parce que le mot socialiste, ça veut dire un peu tout ce qu'on veut. Hein. Autrefois, on parlait des pays socialistes pour parler des pays de l'Est, qui n'étaient plus tellement. Hein. On parle du Parti Socialiste, mais le Parti Socialiste, il n'y a pas grand-chose de socialiste.
On dit même que Barack Obama est socialiste quand il veut faire la réforme des retraites. Hein.
Donc, ça vaudrait le coup d'aller approfondir un petit peu les contenus, de dire ce qu'on veut mettre dedans, quel type de régime, quel projet on a pour l'avenir.
Merci beaucoup, Pierre Crépel.
Remettre l'humain d'abord, trouver une alternative au marché financier, deux expressions qui reviennent dans les paroles des trois intervenants. Elisa Martin, conseillère régionale du Parti de Gauche, membre de l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Michel Husson, ensuite, statisticien et économiste français travaillant à l'Institut de Recherche Économique et Sociale et conseiller économique pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et enfin, Jean-Marc Durand, économiste, membre du Parti communiste français. Trouver une alternative au marché financier, c'est une vraie nécessité dans une France et une Europe marquées par la crise, comme le montre Elisa Martin, qui dresse un constat de la situation actuelle.
Fillon dit, désolé, pas tout à fait d'ailleurs, mais il n'y a pas d'autre possibilité, nous devons impérativement, pour faire face à la crise, réduire nos dépenses. Le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous sommes confrontés à une crise écologique absolument majeure, à tel point que cela remet en cause les conditions mêmes de l'existence de l'humanité, que nous sommes confrontés ici comme ailleurs à une crise sociale majeure, le chômage de masse, l'augmentation des travailleurs pauvres, les 8 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, une jeunesse hyper diplômée tout en étant hyper précarisée, etc., etc. Donc le premier constat, c'est qu'incontestablement, ça ne marche pas. Le deuxième constat, c'est la mise en scène de la dette. Et on peut le dire de manière assez simple. Parce que on nous présente les choses de manière complètement orientée. On nous dit, la dette publique, c'est 72, voilà, ça dépend, ils ne sont pas toujours complètement d'accord sur les chiffres, bref. Une part qui apparaît absolument énorme du PIB qui correspond, dans les critères capitalistes en tout cas, à la création de richesses. La difficulté, c'est que l'on rapporte l'ensemble du remboursement de la dette à la création des richesses sur une année, ce qui n'a absolument aucun sens. C'est comme si moi, pour mesurer votre endettement, je vous disais, vous devez rembourser le reste de votre appartement au hasard, relativement à l'ensemble des revenus que vous touchez sur une année. Là, j'aime autant vous dire que vous êtes vraiment cuit, patate, et incontestablement complètement surendetté. Donc il faut remettre les choses d'abord à l'endroit et dire qu'on va prendre en compte le temps en moyenne de cette année et quelques mois de remboursement de la dette, et là tout d'un coup on se retrouve avec un pourcentage qui est de 12% du PIB, ce qui bien évidemment ne participe pas de la dramaturgie que la droite, mais aussi les sociaux-libéraux, toutes choses égales par ailleurs, veulent mettre en place. Le troisième constat à faire, c'est que, et ça ça touche davantage à la question de la protection sociale, ma foi, si l'on veut faire des économies, et que l'on voulait, par exemple, baisser la part des dépenses consacrées à la santé dans le PIB, peut-être qu'une des manières tout simples de procéder serait de mener une véritable campagne de prévention contre les maladies chroniques, comme on dit, puisque c'est ça qui pèse le plus, en particulier dans le déficit abyssal de la sécurité sociale. Et c'est tout bête, là aussi, ce que je veux dire, sans doute, faut-il s'interroger sur la publicité massive, matraqueuse, qui est faite autour d'un certain nombre de produits alimentaires, en particulier, dont on peut dire très tranquillement qu'ils ne participent absolument pas de la bonne santé, et qu'au contraire, ils alimentent bien ces dépenses chroniques. Donc, au fond, là aussi, il faut qu'on démonte un préjugé, qui est que finalement, on en arrive à penser que l'enjeu n'est pas de faire baisser la part des dépenses consacrées à la santé dans le PIB, mais de baisser la part consacrée à ces dépenses sous forme socialisée, sous forme partagée. Et bien sûr, le fait de faire reculer cette part socialisée dans la protection sociale, qui correspond à un certain nombre de services, je pensais à la santé, laisse naturellement la place aux marchands et à la marchandisation et à la mise en concurrence de nos services publics qui les affaiblissent forcément, ça les affaiblit forcément profondément. Le quatrième constat, c'est qu'on ne peut pas parler que des dépenses si l'on ne parle pas des recettes, et que la droite organise l'assèchement des recettes publiques. C'est donc une logique volontaire et organisée. On pourrait naturellement faire un détour par l'ensemble des niches sociales et fiscales. Pour ne donner qu'un seul exemple, 59 milliards d'exonération d'impôts sur les sociétés. Donc ça nous manque. Cinquième constat, parce qu'il manque un personnage. Ce personnage s'appelle l'impuissance. Et au fond, l'idée selon laquelle il est absolument impossible de faire autrement, c'est ce que disait Thatcher, quelqu'un d'une extrême bienveillance, n'est-ce pas, à l'égard du peuple britannique, qui disait « There is no alternative ». Bon, j'avoue ne pas être anglophone, mais pour le coup, je pense que nous sommes bien compris. Et donc, à partir de là, il y a des larmes, souvent des crocodiles, en disant les choses comme elles sont, pour nous dire que, bah oui, la vie est difficile, qu'on est bien désolé, et du coup, se sortir de tout ça, il va falloir encore se serrer la ceinture, y compris la période de plein emploi est derrière nous, que la période de cette protection sociale si généreuse est derrière nous. Évidemment, au nom de l'Europe que nous voulons, celle de la paix, celle de la coopération entre les peuples, celle qui fera plus jamais il n'y aura de guerre dans notre secteur, alors il faut accepter les dictats de la Commission européenne, étant entendu qu'au fond, ce qu'elle fait, la Commission européenne, c'est qu'elle finit par son action, par réveiller le nationalisme et par opposer les peuples entre eux. Ça n'est pas la Commission européenne, ce sont les grands organismes internationaux et le G20, pour dire les choses comme elles sont. Mais en tout cas, Das Bild, qui est une revue allemande, a fait sa couverture sur le thème « Est-ce que c'est au peuple allemand de payer pour le peuple grec ?» Si ça, c'est pas les germes de la guerre et de l'opposition entre les peuples, je ne sais pas ce que c'est. Et enfin, je veux attirer votre attention, on va dire qu'il y a des petites vacheries, attirer votre attention sur le fait que le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts, je reparle à nouveau de la protection sociale, et pour la fiscalisation de son financement. Attirer votre attention sur le fait que c'est injuste, sur le fait que ça dédouane complètement les employeurs et le patronat, quand même de leur responsabilité dans la mise en œuvre de la protection des travailleurs, et pour vous dire aussi que si l'on pense à l'intérieur du système, si l'on pense dans le théâtre d'ombre, alors il n'y a absolument aucune solution.
Dette publique, austérité, règle d'or, triple A, voilà les quatre cavaliers de l'apocalypse moderne qui hantent tous les médias. Pourtant, aucune fatalité face à ces problèmes. Jean-Marc Durand pointe du doigt le parallèle entre accroissement de la dette et libéralisation de l'économie, donc le problème de la dette, selon lui, serait structurel. On pourrait donc y remédier en changeant les règles du jeu. Écoutons.
Il y a un parallèle que l'on va établir entre la libéralisation des marchés financiers et l'envolée de la dette publique. 1978, c'est cette loi Monnery qui donne donc les pouvoirs aux banques. 1983, c'est la décision de l'ancrage au Deutsche Mark et ce qu'on a appelé la politique de désinflation compétitive. 1984, il y a eu une nouvelle loi bancaire qui allait dans ce sens. Ensuite, il y a eu en 1991 une loi Rocard qui approfondissait encore ces situations. Et après, avec le passage à l'euro et la mise en place, je dirais, de Maastricht et la mise en place de Lisbonne, on a encore franchi un nouveau pas. Il y a donc la dette publique. En 1978, elle représentait 21% du PIB. En 2002, elle représentait 57%, et en 2010, elle représente 82,3%. Vous voyez le parallèle que l'on peut établir entre la libéralisation des marchés et la libéralisation des banques, et, je dirais, l'enflement considérable de la dette publique. Les recettes de l'État régressant, l'aspiration, la volonté de toujours financer de plus en plus les marchés financiers, ont contribué à déséquilibrer totalement le budget de l'État et à faire en sorte que cet État recourt de plus en plus aux marchés financiers pour pouvoir, je dirais, être à peu près payé ses fonctionnaires d'abord et puis quand même développer un petit peu d'activité et répondre, je dirais, aux objectifs, à quelques objectifs sociaux. On se rend compte qu'en fait, il y a eu un décrochage là encore terrible, je vais vous donner quelques chiffres, il y a eu un décrochage terrible. En 2003, les dépenses publiques représentaient 51,6% du PIB. Alors que les recettes publiques représentaient 47,5%. Vous voyez, il y a déjà un décrochage de 4%, 4,1%. En 2009, les dépenses publiques, c'était 54%, et les recettes publiques, c'était 47%. Et en 2010, on est à peu près sur la même idée, on est à 54% de dépenses et à 47% de recettes. Donc un décrochage de 7%. Donc, un approfondissement du déséquilibre budgétaire, donc un recours supplémentaire au marché financier, donc à nouveau, on accroît la situation du déficit global et pousse à une économie très molle. On le ressent encore aujourd'hui. Deux trimestres en France de croissance zéro. Un taux de croissance en Europe en 2011 à 1,6%, aux États-Unis à 1,5%. Pour 2012, alors qu'ils avaient prévu 75%, ils ont déjà réussi en France, là, ils ont déjà réussi à 1%, peut-être même à 0,75%. Ce qui veut dire qu'on est à la veille d'entrer dans une vraie phase de récession. Si on ne retrouve pas une certaine croissance, eh bien, on va continuer à s'enfoncer, et le gouffre auprès duquel on dit tout à l'heure, était décrit comme des têtes, eh bien, on va être dedans. Effectivement, on va tomber dedans. Il y a un véritable problème de financement des dépenses publiques et sociales. Il y a un problème qui nous est posé. Il ne faut pas dire que, je dirais, si on allait récupérer l'impôt, si on allait récupérer, y compris sur les entreprises, là, on réglerait le problème. Non, on ne réglerait pas le problème. Parce qu'il y a une demande sociale considérable. Il y a une demande sociale considérable. Donc, il y a d'autres leviers sur lesquels il faut appuyer pour faire en sorte que la croissance reparte. Parce qu'il y a besoin de croissance pour répondre aux besoins sociaux. Et qui dit croissance, ça ne veut pas dire avoir 15 postes de télévision dans son appartement. Bien évidemment, ce n'est pas ça dont on parle. Mais c'est développer les services publics, c'est développer la réponse en besoin de soins, en besoin familial, tout un tas de choses, y compris en termes d'infrastructures. Y compris en termes d'infrastructures. Parce qu'enfin, la population, elle augmente sur Terre, elle augmente en France, et on a les mêmes infrastructures que l'on avait il y a 20 ans. C'est pas possible.
Autre sujet d'actualité, la crise de l'Europe et de la zone euro. Face au Front National, qui prône la sortie de l'euro, ce qui ne résoudrait rien puisque la dette française resterait en euros, monnaie dans laquelle elle a été contractée, et puisqu'elle entraînerait une dévaluation systématique du franc, et donc une baisse de compétitivité, face au Front National donc et sa fausse bonne idée de la sortie de l'euro, Elisa Martin évoque non pas la responsabilité de l'euro, mais celle des traités européens et souhaite, pour régler la crise, une nouvelle organisation européenne.
Qu'est-ce qui pose vraiment problème ? Est-ce que c'est une monnaie qu'on a décidée commune, qui, comme toutes les monnaies, j'ose le dire, est au fond un outil, donc il faut voir comment on l'utilise, quoi, hein, tout bêtement, ou est-ce que c'est les traités européens ? Et je ne suis pas certaine que ce soit simplement, disons, un jeu de mots dans l'idée de dire sortir de l'euro, ça ne veut pas forcément dire sortir des traités européens. J'en veux pour preuve qu'avec l'euro, et à contrario, tout serait différent si est mis en place. La solidarité budgétaire entre les États via un budget européen qui permettrait de corriger un certain nombre d'inégalités structurelles. C'est une forme de liberté de déficit. Si on avait des statuts de la BCE et une mission confiée à la BCE qui ne soit pas simplement sur l'idée de la lutte contre l'inflation pour les euros forts, disons les choses comme cela, mais qui soit orientée vers ce fameux le financement de ce développement auquel je faisais allusion à l'instant. C'est l'enjeu effectivement des harmonisations sociales et fiscales. On ne peut pas lutter contre le dumping social et fiscal s'il n'y a pas des logiques d'harmonisation. Qu'est-ce qui empêche tout ça? C'est pas l'euro. Ce qui empêche tout ça, c'est les traités européens dans leur fondement. C'est le pacte de stabilité pour l'affaire, par exemple, les déficits. C'est les statuts répétés sans cesse et sans cesse dans leur philosophie tout au long des traités qui empêchent, par exemple, la question de la monétisation de la dette telle qu'elle a été décrite tout à l'heure. La difficulté, c'est pas l'euro, c'est le pacte euro plus, qui est une caricature, hein, qui, y compris sur un plan démocratique et sur le plan du respect de la voix des peuples, est absolument, disons, scandaleuse, quoi, hein, pour bénéficier d'un certain nombre de mécanismes de solidarité. Alors, il faut serrer la vis à tout le monde, hein, aux retraités, aux salariés, à la protection sociale, etc. C'est l'affaire du semestre européen, où au fond, la Commission européenne devient prioritaire sur nos parlements nationaux pour juger, disons, du caractère positif, selon leurs propres critères, de nos budgets. Donc, il me semble qu'il faut démonter ça et indiquer que la question, ce n'est pas l'outil, c'est bien la manière dont on l'utilise et dont on l'utilise et le contexte dans lequel on peut l'utiliser, qui, encore une fois, est le contexte des traités européens.
Pour résoudre les problèmes contemporains, des voix se font entendre. On parle de protectionnisme. Ce n'est pas ce que propose le Front de Gauche. Michel Husson s'en explique à notre micro. Michel Husson, bonsoir. La conférence portait donc sur les alternatives possibles aux marchés financiers. Certains, à gauche, comme à l'extrême droite, répondraient bien volontiers à ce sujet que pour cela, il faut opter pour un protectionnisme de quelque forme qu'il soit. Vous avez signé un article en juillet 2011 dans la revue Contretemps intitulé « Protectionnisme et altermondialisme » où vous critiquez la présentation faite du protectionnisme comme unique solution au libre-échangisme actuel. Vous relevez que les programmes protectionnistes reposent sur deux postulats qui sont faux. D'une part, que le libre-échange serait la source unique de régression sociale, et ensuite que la montée du chômage serait causée uniquement par la mondialisation et ses délocalisations. Alors, en quoi ces deux postulats sont faux?
Il y a une modification de la répartition des revenus entre capital et travail, et la contrepartie de cette modification qui a permis de rétablir les profits, mais pas l'investissement, donc qui est allé en fin de compte aux actionnaires. La contrepartie, c'est la montée du chômage, quoi. Et le contre-exemple, si vous voulez, c'est la période des 35 heures. Donc, on peut discuter sur le bilan, etc. Mais les 35 heures correspondent à une marge d'escalier de l'emploi qui est le résultat d'une conjoncture favorable, mais aussi de politiques publiques volontaristes qui sont assez déconnectées de ce qui se passait sur le commerce extérieur, quoi. Il n'y a pas eu rapatriation d'emplois à cette occasion. Donc, ça veut dire que les implications politiques, c'est effectivement, si tout vient du dehors, on met des barrières, on sort de l'euro, etc., si c'est ça le problème. Mais c'est renversé l'ordre des facteurs, à mon avis, parce que ce qui est premier, c'est une question sociale qu'on retrouve dans tous les pays, qui est, disons, démultipliée par la mondialisation, mais qui est quand même à l'intérieur des frontières. Je veux dire, C'est pas parce qu'on va sortir de l'euro, par exemple, que les actionnaires vont pas continuer à recevoir des dividendes de manière croissante, alors que on demande aux salariés de faire des efforts pour participer
au redressement. Vous dites
notamment
les gens qui prônent le protectionnisme, ils sous-estiment complètement la véritable nature de l'économie mondiale et notamment le rôle des multinationales qui font fi de toutes ces frontières.
On produit à cheval sur plusieurs régions et que d'une certaine manière il y a des choses que nous on ne produit plus et je veux dire se protéger contre les gens qui nous les vendent ou taxer les je veux dire si on taxe les ordinateurs, est-ce que ça va faire qu'on achètera plus d'ordinateurs français? Non, parce qu'on n'en produit plus.
Et une dernière remarque que vous faites par rapport à ce discours protectionniste, c'est qu'il peut être dangereux car, même si ce n'est pas l'intention de base des auteurs, il permet d'alimenter des réflexes qui cherchent à faire retomber sur des boucs émissaires étrangers la responsabilité de la crise. Et on a vu d'ailleurs comment Marine Le Pen, il en a été question dans ce débat, s'est approprié ce concept. Donc, pour conclure, ce que vous dites avec le parti du Front de Gauche, c'est que la réponse à l'alternative qu'il faut trouver au marché financier, elle n'est pas dans le protectionnisme.
Le débat, c'est pas il y a d'un côté ceux qui sont protectionnistes et puis ceux que les autres seraient forcément libre-échangistes, donc admirateurs de la mondialisation commerciale et productive. Non, c'est pas ça. Mais le problème, c'est savoir qu'est-ce qu'on protège, quoi. Et donc l'idée, c'est on fait une expérience de transformation sociale, on prend des mesures qui répondent à certains objectifs, et ensuite on protège cette expérience, mais on la protège plus des mouvements de capitaux. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui crée la crise en Europe, c'est la spéculation sur les bourses, c'est les agences de notation financière, c'est pas tellement les importations chinoises. Hein.
D'accord, merci beaucoup.
Merci.
Cette conférence n'avait pas pour but de dresser des constats, si brillants et avisés soient-ils, mais de proposer. Trouver des alternatives au marché financier, ce n'est pas pour le Front de Gauche un vœu pieux. Pour y arriver, de nombreuses solutions ont été envisagées. Réformer la fiscalité, créer un fonds national et des fonds régionaux pour l'emploi et la formation, créer un pôle public financier transformant notamment la politique et les critères du crédit, d'une part en mettant en réseau des institutions financières publiques existantes, des banques et des assurances mutualistes, et d'autre part en nationalisant des banques et des compagnies d'assurance privées. Elisa Martin revient notamment à notre micro sur les propositions du Front de Gauche en matière économique et sociale. Voilà ce qu'elle dit. Elisa Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère régionale et municipale, membre du Parti de Gauche.
Oui.
Et vous soutenez Jean-Luc Mélenchon.
C'est vrai.
Et le programme du Front de Gauche, dont le titre est « L'humain d'abord ». Face aux marchés financiers, il faut faire passer donc l'humain d'abord. Ce qui n'est pas une préférence morale, pas que ça, c'est aussi une véritable stratégie pour régler la crise, n'est-ce pas ?
Exactement. L'idée, au fond, c'est de dire que l'on peut s'appuyer sur les énergies positives, sur les compétences indiscutables des salariés en France, sur la capacité de mobilisation populaire aussi, sur la capacité des citoyens à se saisir des questions. J'aime à dire qu'aujourd'hui, nous avons vendu par les librairies 230 000 programmes, donc hors diffusion militante, ce qui révèle de toute façon une appétence pour la question politique. L'appétence est fondée sur des questionnements, l'appétence est fondée sur des grandes inquiétudes, sur un sentiment fondamental et complètement juste d'injustice. Donc comment on fait ? Et l'idée, c'est de créer les conditions où on se retrousse tous les manches et où on remet la réalité à l'endroit, en mettant l'humain au centre.
La conférence ce soir a essayé de trouver une alternative au marché financier. Mmh. Le deuxième point du programme porte le titre de « Reprendre le pouvoir aux banques et aux marchés financiers ». Alors, juste, puisque vous êtes allé un petit peu vite dans la conférence, est-ce que vous pourriez résumer à grands traits la réforme de la fiscalité proposée par le Front de Gauche ?
Alors, il y a des mesures, on va dire, qui sont des mesures immédiates. La première mesure immédiate, comme on est confronté quand même à un chômage de masse qui impacte les recettes de la protection sociale, c'est dans une phase intermédiaire, par un impôt sur les dividendes. les profits financiers que peuvent faire les banques, les entreprises, les assurances, les ponctionner pour venir soutenir la protection sociale. C'est évidemment un impôt économique, un impôt sur les entreprises qui soit juste. Les entreprises du CAC 40 sont taxées à 8%, tandis que les entreprises qui ne le sont pas, les plus petites en particulier, donc les plus fragiles, le sont à 33%. Donc l'idée, c'est de taxer le capital au même niveau que le travail, évidemment. C'est aussi par la loi empêcher qu'un certain nombre d'accumulations de richesses qui sont liées donc à ces fameux produits financiers. Sur le plan de l'impôt sur le revenu, qui donc là concerne les personnes, l'idée c'est d'avoir un impôt qui là aussi soit plus juste, donc plus progressif. Pour qu'il soit plus progressif techniquement, il faut qu'il y ait plus de tranches. Et ça, évidemment, c'est des réformes qui sont des réformes davantage de fond. L'idée, c'est de dire à quoi ça sert la fiscalité. La fiscalité sert à alimenter des dépenses que l'on socialise, donc que l'on assume tous ensemble et pas seulement en tant qu'individu. Et donc, ça veut dire que la fiscalité, son objectif doit être de répartir les richesses de manière juste. Je rappelle qu'en 20 ans, on a perdu 10 points du PIB, donc de la richesse nationale qui allait vers le travail et qui maintenant va vers le capital. Donc incontestablement, 190 milliards ça fait, par an. Donc incontestablement, les marges de manœuvre, elles existent aussi sur le plan fiscal.
Elles existent aussi par les exonérations patronales qui ont été accordées.
Ça va sans dire revenir naturellement sur ce qu'on appelle les niches sociales et les niches fiscales. L'impôt sur les sociétés, c'est 59 milliards qui partent en fumée, quoi, hein, finalement, alors qu'ils devraient revenir pour être partagé entre tous.
On a parfois du mal à saisir les grandes différences qu'il y a entre cette réforme de la fiscalité et celle que peut défendre aussi le Parti Socialiste.
Ah bon? Bah merde alors, on manque de pédagogie, c'est incontestable. Quelle réforme fiscale d'abord porte le Parti Socialiste? Moi, ce que je sais, c'est qu'ils sont pour la fiscalisation de la protection sociale, ce qui est un vrai problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne finance plus la protection sociale par les cotisations. En particulier naturellement patronale, mais qu'on fait une fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG, et c'est ce qu'on, d'où le fait que l'on parle de fiscalisation, et c'est donc cet impôt-là qui viendra financer la protection sociale. C'est particulièrement injuste, hein, parce que ça veut dire que l'effort portera essentiellement sur les individus, et ça exonère le patronat de sa responsabilité.
Comme je viens de le faire, on doit souvent vous demander de comparer le programme du Front de Gauche à celui du Parti Socialiste, mais c'est parce que le Front de Gauche, il a été créé comme l'exigence de réinventer à gauche, et de réinventer en s'appuyant sur l'implication populaire. Ça veut dire que le Parti Socialiste, il s'adresse plus aux couches populaires?
Oui, bien sûr, le Parti Socialiste s'adresse plus aux couches populaires. D'ailleurs, vous savez, il s'appuie sur ce qu'ils appellent des think tanks, comme si la langue française ne permettait pas d'exprimer, disons, la réflexion.
On rappelle que vous êtes prof de français.
C'est pas idiot, finalement, comme mot. Donc, ces cadres de réflexion indiquaient qu'au fond, il n'était pas utile de s'adresser aux catégories populaires. Donc, il y a 8 millions d'ouvriers dans notre pays et 7 millions d'employés, parce qu'ils n'allaient pas voter. Donc ça servait à rien. Donc j'ai envie de dire que sur le plan de la stratégie électorale, oui, je ne suis pas certaine qu'ils s'adressent à eux. Mais ça n'est pas ce que nous voulons dire. Ce que nous voulons dire, c'est que pour mettre en œuvre ce que nous voulons mettre en œuvre, il n'est pas possible que le peuple soit passif. Le peuple doit s'engager. Nous ne sommes pas dans une logique, et la logique de la 5e République, il y a un homme, plutôt un homme, sauveur, qui va du haut. Réglé par une espèce de magie, la monarchie républicaine, régler tous les problèmes. C'est pour cela que la première chose que nous ferons, quand nous serons effectivement au pouvoir, ce qui arrivera, j'en suis absolument certaine, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a un vrai échec de la solution social-démocrate, bien sûr, et de la solution libérale aussi. C'est cette affaire de constituante, c'est-à-dire ce temps que nous prendrons dans le cadre d'un grand débat public pour nous redonner les règles du jeu de nos décisions collectives. C'est pour dire que nous avons besoin d'un peuple mobilisé, d'une société mobilisée qui porte avec ses élus les mesures qui sont nécessaires à notre émancipation, quoi, disons, tout simplement.
Démocratie participative, assemblée citoyenne, c'est des mots qui
parlent. L'idée, c'est bien d'aller au plus proche et au plus près. Donc les assemblées citoyennes, elles sont dans les boîtes, elles sont dans les quartiers, elles sont complètement ouvertes et où chacun vient et amène aussi ce qu'il a amené, ses préoccupations, ses solutions, ses réflexions, et ça marche.
Merci beaucoup. Certains accusent le Front de Gauche d'être utopiste, de rêver à un monde idéal impossible. Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve. Alors que lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. L'utopie partagée, c'est le ressort de l'histoire. Cette phrase est de Dom Helder Pessoa Camara, archevêque d'Olinda de Recife, au Brésil, mort il y a une dizaine d'années, qui n'était pas vraiment un gauchiste fan de reggae. Pour aller plus loin, dans ce rêve ou cette réalité, je vous conseille de lire le programme du Front de Gauche, paru aux éditions Librio, ainsi que d'aller sur la page internet personnelle de Michel Husson, où sont en ligne de nombreux articles économiques très accessibles. Nous arrivons au terme de cette émission spéciale. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux numéros spéciaux de Présidence qui couvrent pour vous le Forum Libération qui aura lieu à Lyon les 25, 26 et 27 novembre prochains. D'ici là, je vous laisse en compagnie de toutes les émissions de la grille de Transistor et surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.